Vous nous suivez en direct sur le studio Kalangou, il est 18h à 18h à Niamey, partout au Niger. Messieurs, dames, le point sur l'actualité nationale en français, bonsoir. Bienvenue à tous, voici nos titres. Qualification sécuritaire au Sahel et droit applicable, objet d'une table ronde régionale regroupant en ce moment à Niamey, officiers et professionnels du droit international humanitaire des 5 pays membres du G5 Sahel. Les précisions du représentant du ministre nigérien de l'Intérieur à cette rencontre. Début de la mise en vigueur de l'état d'urgence décrété sur le territoire du département de Gauteuil, région de Tillabéri. Les mesures diffèrent d'un endroit à un autre. Les explications du préfet de Gauteuil dans ce journal. Un magazine retour sur la deuxième conférence de Niamey des pays membres du G5 Sahel sur le renforcement des liens entre sécurité, justice et développement dans cet espace. Un chercheur dakarois parlera de la contribution de la résolution de guerre imposée aux pays membres du G5 Sahel. À ce micro, Diallo Maria Makenda, merci de rester en notre compagnie. Table ronde régionale en ce moment à Niamey sur la qualification sécuritaire au Sahel et le droit applicable. Elle regroupe officiers et professionnels du droit international humanitaire des 5 pays membres du G5 Sahel. Selon le représentant du ministre de l'Intérieur, cette rencontre traduit la volonté d'accompagner le G5 Sahel, notamment dans le cadre du droit lié aux conflits armés. Alamji Abba Issa au micro de Habibou Garba.
La présente table ronde traduit concrètement la volonté d'accompagner l'opérationnalisation du G5 Sahel au titre du respect du droit des conflits armés, conformément aux obligations générales découlant des conventions de Genève du 12 août 1949. Le contexte sécuritaire dans lequel nos forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui engagées appelle plus qu'auparavant à une bonne maîtrise des règles du droit des conflits armés, conformément à la résolution 2391 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le respect de cette résolution nécessite l'implication des commissions nationales des droits humains des 5 pays. Le développement est au cœur du dispositif du G5 Sahel dès sa création. C'est pour cela que nous nous réjouissons de l'intérêt que portent les organisations de la société civile en général et des organisations non gouvernementales internationales en particulier à l'effort de développement déployé par notre organisation sous-régionale.
Cette table ronde est organisée par l'ONG suédoise Diakonia en collaboration avec la Commission nationale des droits humains, CNDH, et le G5 Sahel. Les participants à cette deuxième conférence pour le renforcement des liens entre la sécurité, la justice et le développement ont recommandé d'établir des plateformes d'échange avec les populations du Sahel et exhorter les États à mieux communiquer sur la force conjointe du G5 Sahel. Suivons ces recommandations lues par le directeur de cabinet du ministre nigérien des Affaires étrangères, Mokhtar Touré Chekarao, au micro de Rukayatou Abdourahmane.
Les participants ont recommandé de renforcer les liens entre la sécurité, la justice et le développement afin de relever les défis marqués par l'implication des conflits intercommunautaires, une participation pleine et entière des femmes au règlement des conflits, le renforcement du dialogue ainsi que la coopération entre les autorités civiles et militaires, d'accroître les investissements dans le renforcement de l'état de droit. Les participants ont également exprimé le souhait de pouvoir établir une plateforme de dialogue et d'échange multi-acteurs portant sur les bonnes pratiques, l'appui méthodologique et le suivi des recommandations. Encourager les États membres du G5 Sahel à sensibiliser les populations au mandat et au fonctionnement de la force conjointe et de sa composante police. Enfin, les participants ont tenu le souhait que la troisième conférence soit organisée avant la sixième session ordinaire de la conférence des chefs d'État dans la région du Sahel.
Début d'application la semaine dernière des mesures de l'état d'urgence dans le département de Gauteuil, région de Tillabéri. Selon le préfet de Gauteuil, les mesures diffèrent d'un endroit à un autre. Par exemple, à Boulkagou, coloré en rouge, deux personnes n'auront plus le droit de monter sur une même moto. Le préfet Jibo Moussa Moussi, il est joint au téléphone par Tanan Foudé Ahmed.
Les mesures, dans l'essentiel, c'est l'arrêt de la circulation des engins et des personnes à des heures indiquées. Donc, nous avons la partie côté Kakassi d'Argol et il y a la desserte qui quitte l'embranchement au niveau du Bac Farieille pour Bulkagou et la zone rouge, donc la zone de frontière. Les heures diffèrent de pas à partir de ces zones. Donc, de l'autre côté, sur le goudron, nous avons appliqué l'heure de Tera. Nous fermons les barrières donc de 20h à 7h du matin. Maintenant, à l'interne, on va jusqu'à 22h pour la circulation des piétons et des motos à l'intérieur. Maintenant, la zone rouge, côté frontière là, nous avons un poste à Bulkagou. Les horaires diffèrent de l'autre côté. Et là, c'est de 19h à 7h du matin. Nous sommes venus jusqu'à Bulkagou, là où on a créé le poste de la zone rouge. Ici, nous voulons même empêcher, même de jour, l'utilisation des motos à deux.
Parti en novembre 2017, le Niger est revenu en toute responsabilité pour reprendre sa place de leader au sein de l'ITUE et avec l'encouragement de certains de ses partenaires. C'est ce qu'a déclaré le ministre nigérien des Mines ce matin à Niamey à l'occasion de la tenue de la conférence entre les parties prenantes à l'ITUE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le ministre Hassan Barazé Moussa est au micro d'Alassane Kouzi Mahamadou.
Le Niger a choisi de quitter l'ITUE, le Premier ministre l'a dit, en toute responsabilité. Et le Niger a choisi de revenir également dans l'ITUE en toute responsabilité. Et les raisons qui ont motivé le Niger à revenir, vous l'avez vu, le Niger a été, 3 ans seulement après la création de l'ITUE en 2005, leader de l'ITUE. Et nous sommes revenus à l'ITUE parce qu'il y a une mission de haut niveau des responsables de l'ITUE qui sont venus au Niger présenter pratiquement leurs excuses pour dire qu'ils ont été trompés, ils n'étaient pas du tout bien informés et qu'ils présentent leurs excuses et qu'ils invitent le gouvernement nigérien à reprendre sa place à l'ITUE parce que tout simplement le Niger a été leader. Le gouvernement a examiné la question avec l'appui de certains partenaires tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. qui nous ont encouragés à retourner et donc le Niger a pris la décision de revenir à l'ITUE.
120 orpailleurs clandestins ont été appréhendés dimanche par l'armée nigérienne sur le site aurifère de Diado fermé, leurs véhicules et matériels ainsi que leurs butins confisqués. Ils seront libérés contre paiement d'une amende de 50 000 francs CFA chacun, selon Sanoussi Mahaman du Mouvement pour une citoyenneté responsable à Agadez au micro de Moussa Mamane.
Les 18, j'ai fait le déplacement pour aller à la gendarmerie, constater de visu. J'ai constaté effectivement la présence des orpailleurs qu'on peut estimer à environ 120, dont en majorité sont de la région d'Agadez et presque tous, ils sont des Nigériens. Discuté avec certains orpailleurs et j'ai échangé avec les responsables de la gendarmerie qui m'avaient fait savoir qu'on les a confiés. C'est sur instruction du procureur pour qu'ils soit libre. Chaque orpailleur doit payer une amende forfaitaire de 50 000 francs. On les accuse d'exploitation illégale des substances minérales. Or, ces orpailleurs-là qui ont pris d'assaut ces derniers temps les sites de Jado, pour moi, ils sont de bonne foi parce que à plusieurs rencontres, il y a des autorités politiques, des députés, des élus qui ont clamé partout que les sites de Jado sera réouvert.
14 des 120 orpailleurs sont libres après paiement de l'amende selon le commandant de légion de la gendarmerie d'Agadez, le lieutenant-colonel Abdoulaye Toubi, qui s'est confié à notre correspondant. 156,09 hectares de jardins totalisant 636 exploitants, dont 587 concernés par les inondations observées sur les sites de Gamkalé-Saga dans le 4e arrondissement et Goudelo-Sogungu, 1er arrondissement de Niamey au cours de la semaine écoulée. C'est le bilan dressé ce matin par le coordonnateur de la section régionale de la Fédération des coopératives maraîchères de Niamey, Oumarou Sambo Boubacar, au micro de Gungou Maman Dantani.
La cause d'abord, c'est que le fleuve s'est rempli vite, d'autant plus que la profondeur à moitié a été remplie par le sable. Donc, l'excédent de l'eau du lit du fleuve là, mais va se répandre sur les rivières. Et mais du coup, les rivières vont se remplir et ne peut plus continuer. Et là, tout ce qui est ouvrage sera endommagé et tout ce qui est en aval de la digue aussi, on doit s'attendre des conséquences. À Goudel, quand on est allé sur le terrain pour faire l'évaluation, la digue a été coupée quand il y a eu l'inondation à l'Osogongo pour faire évacuer l'excédent de l'eau du quartier. Les ouvertures n'ont pas été fermées. Donc, du coup, la crue a monté et l'eau aussi a trouvé donc donc un lieu pour pouvoir donc aller récupérer. Mais pour la cause principale, c'est l'ensablement du fleuve. Présentement, selon notre évaluation, les trois sites tout confondus, le nombre de producteurs, c'est 636 qui exploitent ces trois sites. Donc, les 587 sont concernés par les inondations. Les superficies des trois sites, ça fait 156,09 hectares. Donc, les 93,09 sont concernés. Voilà la situation globale.
Parlons culture à présent. Le Niger se prépare à participer dans un mois à la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, soit 50 ans d'existence de l'événement. Une occasion pour promouvoir davantage le cinéma et l'image du Niger, souhaite de tout cœur le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger, Sanima Gori, au micro de Mokhtar Mahamadou.
Le FESPACO étant un festival qui écrit directement aux auteurs, donc les auteurs y déposent les films. Mais ce que je sais qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de films nigériens qui ont été déposés, comme d'habitude. Hein, d'ailleurs, chaque année, les Nigériens produisent. Donc nous attendons incessamment, en tout cas comme je l'ai dit, d'ici la fin de ce mois-là, toute la liste des films qui vont être retenus pour la compétition officielle. Nous pensons que le Niger a le devoir cette année de profiter vraiment de cette opportunité pour relancer son cinéma. Et la relance du cinéma, c'est pas vraiment, on va pas maquiller la réalité, c'est-à-dire nous avons besoin, au même titre que tous les autres pays, d'un fonds, un fonds pour la production cinématographique, parce que les films qui vont au FESPACO sont généralement des films qui ont reçu des soutiens de leurs États. Donc malheureusement, au Niger, les gens déploient leurs énergies propres, ils font des efforts pour faire, mais il n'y a pas d'argent. Donc nous pensons que c'est une opportunité pour nous, en tout cas cette année, de convaincre nos autorités de la nécessité vraiment d'investir dans le cinéma qui est un vrai levier pour le développement économique.
Propos recueillis par Mokhtar Mahamadou. La partie magazine de ce journal à présent, deuxième conférence hier à Niamey, c'est un rappel des pays membres du G5 Sahel sur le renforcement des liens entre sécurité, justice et développement dans cet espace. Pour le participant Ibrahim Meiga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS Dakar, cette conférence permettra aux pays membres d'articuler les actions pour mieux opérationnaliser ces liens. Il est au micro de Tarnan Foud Ahmed.
Le renforcement des liens entre les forces de défense et de sécurité et les populations de l'espace du G5 Sahel peut considérablement contribuer dans la résolution de la guerre imposée à ces pays par les terroristes et autres groupes criminels, explique Ibrahim Meiga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité au Sahel.
L'objectif de cette conférence, comment dans la pratique opérationnaliser les liens entre la sécurité, entre la justice et le développement. Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience sur la nécessité de mieux articuler ces dimensions qui concourent chacune de son côté à rétablir la paix et la sécurité dans nos espaces durement éprouvés. Maintenant, cette conférence et bien d'autres vont probablement nous permettre d'affiner nos actions sur la façon dont il faut opérationnaliser ces liens qui sont très étroits et qui, une fois de plus, sont compris par les différentes parties prenantes.
Il y a une grande méfiance entre les forces de défense et de sécurité et certaines populations de cette zone. Comment faut-il faire pour créer une confiance entre elles?
Les populations ne comprennent pas parfois. Elles sont injustement accusées de collaborer avec les groupes criminels ou terroristes, alors que parfois, elles se retrouvent dans une situation où il n'y a pas de présence tout simplement d'autorité de l'État. Donc le lien de confiance n'est pas facile à maintenir. C'est de voir comment, au-delà de l'action militaire, créer ce lien avec les populations à travers un accès aux services sociaux de base et comment intervenir dans certains cas avant que la situation ne se détériore.
Il a été relevé que des progrès significatifs ont été enregistrés alors qu'il y a une recrudescence des attaques au Burkina Faso, Niger et au Mali. Comment voyez-vous cela?
Tout en mettant de l'avant les progrès qu'elle a accomplis dans le cadre de son opérationnalisation, la force conjointe elle-même reconnaît les difficultés auxquelles elle est confrontée. Déjà, elle n'est pas présente partout. On assiste quand même à une lente montée en puissance de cette force conjointe. Maintenant, c'est aussi important de mettre de l'avant les insuffisances et les défis que la force conjointe devra relever au cours des prochains mois. En tout, depuis 2017, depuis son lancement officiel, elle en a mené 6 opérations qui ressemblent pour l'instant à des opérations de reconnaissance ou à des démonstrations de force, mais qui ne constituent pas en soi des opérations qui puissent, dans la durée, ramener la sécurité sur le terrain. Donc il faut avoir un discours optimiste vis-à-vis des actions de la force conjointe, tout en reconnaissant les insuffisances et les défis auxquels elle est confrontée.
Quel est votre appel à l'endroit des populations de ces 5 pays?
Les populations doivent jouer un plus grand rôle, qu'elles doivent être impliquées dès le départ, recenser leurs besoins, les écouter, leur apporter l'accès aux services sociaux de base pour que le discours soit crédible. Il ne suffit pas juste de dire qu'on est là pour vous, mais de démontrer dans les actions, par les actes, que les forces armées, les États de façon générale à travers leurs administrations sont là pour le bien-être au bénéfice des populations.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, place au forum de Studio Kalangou présenté par Railatou Soumana. Elle vous parle de l'apport du Musée national Boubou Hama dans le tourisme.